Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vous savez qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue. Aujourd'hui, ça paye ses fruits.
Si je devais expliquer mon style de jeu à quelqu'un qui me connaît pas, je dirais d'allumer la télé.
Tu penses que je vais te répondre quoi? Il pleurait, on l'a mis la tête dedans.
Just take the pleasure with my teammate and give.
RMC, l'after foot.
Christophe Plenet.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'After. Joie immense de vous retrouver pour l'After Foot en direct, bien sûr, sur RMC, en direct également sur After Foot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Nous sommes ensemble, les amis, jusqu'à minuit. Comme d'habitude, le 32-16 est ouvert pour intervenir dans l'After avec nous. Le numéro WhatsApp pour vos messages est le suivant. Vous le connaissez par cœur, j'imagine, désormais, le 06-12-424-424. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'être à accompagné par David Guzman. Salut David.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Ça va bien?
Parfait.
Parfait.
On va parler de foot pendant deux heures, on va quand même pas se plaindre.
Oh oui. Présent et titulaire également Maxime Chano. Salut Max.
Salut Christophe, salut David. Salut à tous et à toutes.
Tout va bien également Max?
Écoute, ça va très bien, on a très chaud ici à Paris, mais ça y a un peu d'air conditionné ici sur le plateau, on est mieux.
Un peu, ouais.
Allez, j'ai demandé le programme. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, on va revenir sur la conférence de presse de Luis Enrique avant le trophée des champions demain à Bollard contre le Racing Club de Lens. On parlera bien sûr également des 100 et or. Au programme également de l'After, l'Olympique de Marseille, la deuxième journée de Ligue 2. Adrien Lebeau, le milieu de terrain de Dunkerque, sera avec nous tout à l'heure. On parlera également des Girondins de Bordeaux, plus proches que jamais du précipice. On parlera de la Première Ligue, le championnat anglais qui démarre la semaine prochaine. Sans oublier les dernières infos, Mercato, tout ça et plus encore. C'est dans l'After et c'est tout de suite. Allez, comme promis, on démarre bien sûr avec le Paris Saint-Germain. Trois jours après avoir gagné la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa en Autriche, les Parisiens défient le Racing Club de Lens demain à Bollard à l'occasion du Trophée des Champions. Luis Enrique était en conférence de presse cet après-midi. L'entraîneur asturien a été bon, voire très bon, comme d'habitude. Je vous propose de l'écouter une première fois. Il nous parle de ce match demain, donc face à Lens. Il s'attend à un affrontement très difficile.
Ben, je ne fais rien de spécial. C'est le profil de chaque joueur. On cherche à trouver les joueurs qui s'adaptent mieux à ce que nous voulons. Demain, on va jouer l'un des matchs plus difficiles que tu peux jouer à l'extérieur. Et on va de nouveau chercher à gagner cet trophée qui est un trophée important pour tout. On savait déjà de les difficultés à jouer là-bas et je pense qu'on est prêt dans ce moment de la saison qui est un moment particulier parce que il n'a pas la condition physique, mais après gagner la Supercoupe d'Europe, c'est un bon moment pour nous et on va chercher de gagner encore ce trophée.
Est-ce que vous êtes d'accord, Max, David, avec Luis Enrique? Est-ce que ce match va être très compliqué demain à Bollard? On rappelle que si ce match, ce trophée des champions se joue à Lens, c'est à la suite du tirage au sort qui avait eu lieu le 3 juin et la pièce était tombée du côté des Saints et Or. Donc, le Racing Club de Lens jouera à domicile. Est-ce que Paris a raison de s'inquiéter à l'image de son entraîneur et est-ce que Paris va effectivement devoir s'attendre à un match très compliqué demain?
Écoute, je pense déjà que Luis Enrique fait preuve d'énormément d'humilité. Dans cette conférence de presse, il est malin, il connaît bien son métier, il nous le montre à chaque saison et encore plus après cette conférence de presse. Voilà, il ne veut pas manquer de respect au Racing Club de Lens, mais si on veut être très honnête, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre le Paris Saint-Germain et son effectif de très très grande qualité. Un Racing Club de Lens qui a perdu ses meilleurs joueurs, Thomasson, Malangsa, Hudson-Edouard, qui risque d'être blessé. Alors il y a eu certaines Sangaré aussi, qui est parti du côté de la Première Ligue, qui était peut-être le meilleur joueur du Racing Club de Lens l'année dernière. Alors certains te diront oui, le Racing Club de Lens est prêt parce qu'ils ont une préparation.
On parlera de Lens tout à l'heure, Max.
Mais c'est très important en tout cas de remettre dans le contexte que c'est vrai que le Paris Saint-Germain finalement a commencé sa saison il y a le 27 juillet, il y a une quinzaine de jours pour certains. D'autres sont arrivés que lundi dernier et pour autant ça les a pas empêchés de, alors pas de rouler sur Aston Villa, mais d'être meilleur qu'une très belle équipe de Première Ligue. Donc est-ce qu'il y aura match demain? Je pense que oui, bien évidemment, parce que Lens reste une équipe de qualité avec des joueurs qui sont restés, notamment Thauvin et puis surtout des arrivées, même s'il me semble que Thorgan Hazard, hein, qui arrive d'Anderlecht, hein, lui qui a été formé d'ailleurs au Racing Club de Lens, c'est la belle histoire côté Lens, est suspendu pour ce match-là. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain est quand même bien au-dessus du Racing Club de Lens. Tu l'as dit un peu plus tôt, l'avantage pour les Lensois, c'est de jouer à domicile à Bollard. Mais bon, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est le Paris Saint-Germain. Alors après, on peut aussi se poser la question, quel 11 titulaire? Est-ce que Luis Enrique va faire tourner? Nuno Mendes avait l'air d'avoir des crampes, donc est-ce qu'il va faire rentrer Lucas Digne? Est-ce que Lucas Hernandez, lui, va jouer? Est-ce que Marquinhos, qui a quand même un certain âge, va jouer deux matchs d'affilée alors que sa préparation a quand même été tronquée? Il est arrivé aussi en retard par rapport à son passé d'international et en particulier cette Coupe du Monde. Donc voilà, des questions en fait qui me laissent penser que à quoi va ressembler finalement le 11 titulaire de Luis Enrique. Mais quand bien même il mettrait une équipe B, il faut être très honnête, aujourd'hui c'est encore au-dessus du Racing Club de Lens. Maintenant sur un match, tu sais jamais, mais je te trouve
quand même très optimiste.
Vois sincèrement le Paris Saint-Germain battre le Racing Club de Lens sans trop de problèmes.
Je te vois très optimiste parce qu'il y a quand même quelques signes d'alerte qui sont complètement normaux contre Aston Villa. Aston Villa qui avait une préparation beaucoup plus importante, beaucoup plus roborative, avec beaucoup plus de matchs de préparation. Mais s'ils respectent aussi le RC Lens, c'est que sportivement, le RC Lens actuellement, c'est le concurrent principal. Et il y a aussi...
Mais
il y a aussi une animosité qui a grandi entre les deux institutions. Il sait que le Paris Saint-Germain va être très entendu parce qu'il y a eu l'histoire du report, il y a l'histoire de la passe d'armes entre Joseph Gourlian et Nasser Al Khelaifi dans le call des présidents. Donc en fait, il y a aussi eu cette discussion concernant la place du nombre de supporters parisiens à l'extérieur. D'ailleurs, les ultras boycotteront ce déplacement à Bollard. Donc en fait, c'est deux clubs de calibre différent, à la surface financière différente, mais qui sont en train de développer, à tort ou à raison, une certaine, peut-être pas rivalité, parce que là-dessus je vais te donner raison, le Paris Saint-Germain est sur sa planète en Ligue 1, mais une certaine animosité qui, moi, m'excite beaucoup avant la rencontre de demain. Ça donne énormément de piment à ce trophée des champions à qui d'habitude j'accorde pas énormément d'importance.
Alors de piment, oui, moi je suis pas convaincu par cet adjectif. J'aurais préféré d'ailleurs un petit aparté le voir un peu plus tard dans la saison, mais ça, on va pas revenir sur la bêtise de ce calendrier, d'avoir mis deux matchs comme ceux-ci, c'est-à-dire la Super Coupe d'Europe et le trophée des champions si tôt dans une saison.
C'est exceptionnel parce qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Mais toi, t'aimes pas par exemple le format anglais d'avoir
cette espèce
de Community Shield avant la saison?
Je vois bien que ça fonctionne pas trop du côté de la France. Pourquoi? Parce que t'as un Paris Saint-Germain où est-ce qu'il y a énormément d'internationaux, un Paris Saint-Germain qui aujourd'hui a besoin peut-être de repos, et donc finalement si tu places ce match aussi tôt dans la saison, bah tu te prives de tes meilleurs joueurs. Là, Luis Enrique a compris, et d'ailleurs je pense que le match contre Tottenham l'année dernière a montré qu'il préférait mettre en place en tout cas son 11 titulaire quand bien même ses joueurs n'étaient pas prêts physiquement. Ça a fonctionné l'année dernière contre Tottenham, ça a plus ou moins fonctionné contre Aston Villa. Maintenant David, je te rejoins par rapport à toute l'animosité qu'il y a eu la saison dernière entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Mais quand bien même, et on va parler uniquement d'un point de vue qualitatif, même si certains te diront ouais, les Parisiens sont fatigués,
voulu les voir jouer. Voilà, pour que ce soit
un match, l'Olympique de Marseille, parce que même si l'OM est dans le trop complet, ça reste un match spécial. Bien sûr que d'un point de vue intrinsèque, cette équipe de Racing Club de Lens est peut-être la seule équipe actuellement avec l'Olympique Lyonnais qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais soyons honnêtes, quand bien même Luis Enrique ferait tourner, ferait rentrer Mayulu, Lucas Hernandez, Lucanit, Beraldo, ça reste encore bien au-dessus que du Racing Club de Lens.
Allez, on continue bien sûr de parler du Paris Saint-Germain dans un instant, mais priorité au direct. On retourne à Birmingham, où se déroulent les championnats d'Europe d'athlétisme, avec le 1500 mètres, Aurélien Thiers, Saint-Eddy Tamgo, et deux Français dans la course.
Salut Christophe, salut à tous. La finale du 1500, sous les yeux d'ailleurs de Jimmy Gressier, tout frais médaillé de bronze sur le 10 000 mètres. On a deux Français, Romain Mornet et surtout Asdin Abstedi, qui est le deuxième performeur européen de la saison. Il va très vite, on le sait, mais il a rarement réussi ses grandes finales. Face à lui notamment, Isaac Nader, le Portugais champion du monde en titre, ou le Britannique Jack Whiteman, vice-champion du monde en titre.
C'est clairement le moment de répondre aujourd'hui à la malédiction en fait. récupérer la médaille d'or et au pire des cas essayer d'être médaillé sur la discipline.
Il y a 3 tours et demi à parcourir sur un 1500. On a déjà fait un tour avec donc Asdin Abs qui pour l'instant est 8e dans cette course. Narve Nordas, le Norvégien, est en tête devant Jake Eward, un Britannique, et Robert Farken, l'Allemand, en 3e position. L'Allemand aussi un concurrent très solide. On rappelle quand même que ce 1500, c'est une opportunité en or puisque Jakob Ingebrigtsen n'a pas choisi de doubler. Une fois n'est pas coutume, il a eu une saison compliquée. Il est champion d'Europe du 5000, mais il n'est pas là. Et Josh Kerr n'est pas là non plus. C'est le numéro 1 européen, quasiment le numéro 1 mondial. Mais il a préféré tenter le record du monde du mile qu'il a battu, participer au jeu du Commonwealth. Et donc, il est absent. C'est maintenant ou jamais la médaille, Teddy.
Ah, c'est le moment et c'est l'instant à lui de jouer. Là, pour le moment, il est assez bien placé. Il est dans le groupe.
2 tours encore à parcourir, 800 mètres, 1,43 au chronomètre. Toujours Jimmy Gressier qui observe ça avec son drapeau bleu, blanc, rouge, qui va monter au micro RMC d'ici à quelques minutes. Et on espère avec une nouvelle médaille française. L'attaque de Stefan Nielsen, le néerlandais, qui prend les commandes de la course devant Narve Nordas et Jake Eward. Pour l'instant, Asdin Abs est 6e. Il va rester un tour et demi. On est dans la ligne droite opposée. On rappelle qu'il y a également le concours de la hauteur pendant ce temps avec la française Solène Gickel. Première tentative à 1,92. Oh. C'est manqué pour la jeune française. En tout cas, Asdin Abs, sa qualité, c'est vraiment la vitesse. Maintenant, il faut que le mental suive, Teddy.
Bien sûr. Là, maintenant, il faut cette médaille. J'ai rien d'autre à dire. Il nous faut cette médaille et surtout en or. Parce que Abs a toutes les qualités pour le faire. On va arriver au dernier tour. Il est assez bien placé.
Allez, la cloche derrière lui, Isaac Nader, le Portugais, le champion du monde en titre. Asdin Abs qui va accélérer, qui essaie de faire l'extérieur. Pour l'instant, ça tire devant avec Narve Nordas, le Norvégien, et Jake Eward, Robert Farken, l'Allemand. Les trois sont toujours devant. Et l'accélération de Eward et de Jake Whiteman, le Britannique Whiteman. Il fait mal, mais Asdin est là.
Ah ouais. Mais tout le monde commence à attaquer. Attention, Abs, j'espère qu'il ne coince pas. C'est très bien, continue, allez.
Allez, il est à l'extérieur. Nielsen, le Néerlandais, qui fait l'effort. Jake Whiteman,
allez,
il faut faire
mètres,
très attention.
Tu pars.
Au Britannique, on est dans le dernier
allez,
virage.
Il va partir,
Asdin Abs, il va accélérer. Et là, le langage corporel est bon. Il est troisième pour l'instant derrière les deux Britanniques. C'est pour ça que l'ambiance va être énorme. Dans le stade de Birmingham, Eward, Whiteman et Asdin Abs.
Non, il craque,
qui est troisième, il craque. Le Néerlandais, Nielsen. Qui poignarde tout le monde. Il n'y aura peut-être qu'un seul Britannique sur le podium, ni le seul champion d'Europe. Abs a craqué comme d'habitude. Asdin, malheureusement, il est rapide en meeting et il s'écrase énormément en mi-temps, grand championnat. Et c'est encore le cas, ni le Sen, le Néerlandais. Alors là, le podium, on ne l'avait pas vu arriver. Ni le Sen, champion d'Europe. Phil Ström, le Suédois, vice-champion d'Europe, et Andrew Koskoran, l'Irlandais, est troisième. Et derrière, il y a 3 Britanniques. Jake Whiteman, pour moi, c'était le grand favori. Il termine 6e. Romain Mornay, 8e quand même, finaliste. Et Abs, 10e. Alors là, c'est une déception monumentale, Teddy, 10e. Encore une fois, on l'avait dit, il n'a pas le mental pour ces grands championnats.
Ah, j'ai l'impression que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Là, clairement, je pensais à 200 mètres de l'arrivée, je pensais qu'il allait le faire. Il attaquait. Il avait l'air d'être bien. Et puis la dernière ligne droite, il a coincé. Et puis tout le monde lui est passé devant, pratiquement tout le monde. Et puis encore une fois, on repart bedouille avec Asdin. Je suis vraiment déçu pour lui, puisque c'est le premier concerné. Je pense qu'il doit s'en vouloir. Il faudra un moment trouver une solution, en fait.
Il a déjà 33 ans aussi, t'es dit. C'est ça le problème, les années passent.
Oui, mais les chronos sont toujours excellents. Donc là, il faut trouver une solution. Je ne sais pas si elle est tactique, si elle est psychologique ou les deux. Mais il faut trouver une solution parce que sur le plan physique, en tout cas, il est toujours là, bien qu'il ait 33 ans.
Bon messieurs, on va quand même rappeler qu'il y a 2 médailles aujourd'hui. Aurélien Quignon sur le marathon marche ce matin et Jimmy Gressier, médaillé de bronze sur le 10 000 mètres. Ça fait 8 médailles tout de même pour l'équipe de France. Gressier qu'on entendra d'ici quelques minutes. Et puis juste 18 mètres 15, c'est le triple saut réussi par Andy Diaz. Il est à 14 cm du mythique record du monde de Jonathan Edwards. Ça va être compliqué pour ce soir, mais c'est une future légende de son sport.
Très Très bien, merci beaucoup Aurélien et Teddy. Et je te l'ai dit, hein, Aurélien, tu reviens pas à Paris s'il n'y a pas au moins un 10 médailles.
Pour par contre, reste pas à Birmingham, Christophe, ça, je te dis, tu restes
dans les Midlands en Angleterre. On revient vous voir dans un instant hein, pour la première réaction de Jimmy Gressier, donc médaillé de bronze sur le 10 000. Il sera au micro de Léna Marjac dans un instant. Mais on continue, nous, dans l'after avec David Guzman et Max Chano de parler du Paris Saint-Germain et à la veille du Trophée des Champions face à Lens, Luis Enrique n'a rien voulu dévoiler sur son 11 de départ, interrogé en conférence de presse sur une éventuelle rotation de son effectif. L'entraîneur du PSG a préféré répondre avec ironie. Écoutez.
Qu'est-ce que tu veux que je donne des pistes à l'adversaire? Je ne sais pas. Je dois parler avec ma femme pour savoir qui va jouer.
Il est bon, il est fort quand même.
Il est bon, il est drôle. Ouais, après c'est logique honnêtement la question du journaliste
bah, il a raison de la poser après voilà
tu t'en doutes bien que l'entraîneur va pas dévoiler ses plans bon on peut déjà fort imaginer que Nuno Mendes va pas être titulaire hein, parce que c'est ça la base hein, la question hein. Ça commençait par ça en demandant si Nuno Mendes allait être aligné lui qui s'était plein de crampes. Je pense que Luis Enrique est assez intelligent justement pour pas cramer ses joueurs trop tôt dans la saison, donc il risque d'avoir un turnover, mais je l'avais dit un peu plus tôt, j'aime beaucoup sa manière de répondre pendant les conférences de presse en français hein, on le sait hein, ça fait un certain temps qu'il parle déjà en français, mais c'est pas forcément sa langue maternelle, c'est pas facile. J'aime bien le personnage, tu vois, plus les saisons passent et plus
je trouve qu'il a évolué au niveau de la communication.
Il a évolué parce qu'il gagne aussi, c'est-à-dire qu'il y a Luis Enrique en conférence qui est délicieux quand il gagne et Luis Enrique et quand il perd qui est
naturel,
mais c'est naturel mais qui est beaucoup moins pédagogue, parfois cassant. Après oui, il s'exprime en français, moi je le trouve parfois d'une finesse remarquable. Et c'est vrai que il sait se faire aimer, mais il y a quand même deux Luis Enrique en conférence de presse. Disons que la victoire amène la sympathie.
Ça aide, c'est clair.
En tous les cas, c'est aujourd'hui lui le vrai patron, mais je trouve que voilà, il a changé donc dans la communication. On vient d'en parler. Et
moi, j'aimerais qu'il aille
encore plus loin.
Moi, j'aimerais qu'il aille
trop souriant, alors, détendu.
Je suis absolument
la manière avec laquelle il a accueilli Marc Nesta-Kliouche, c'était génial.
Il a tellement à nous dire du football. J'aimerais que parfois il aille, alors peut-être pas dans des conférences universitaires comme Marcelo Bielsa, mais j'aimerais qu'il aille un tout petit peu plus loin dans la pédagogie, dans l'approche tactique, qu'il nous en dise un peu plus sans forcément trahir des secrets. Mais un entraîneur de ce niveau, j'aimerais moi qu'il nous en donne parfois un peu plus.
Et en fait, il a tellement de crédibilité, il a montré à la planète football que c'était lui le meilleur. Est-ce que c'est même pas le... Finalement, est-ce qu'il serait pas meilleur que Guardiola? Je pense que oui, aujourd'hui. Hein. Quand tu regardes un petit peu son palmarès, ce qu'il a fait avec Barcelone. Alors, certains te diront qu'en effet, il est arrivé à Barcelone, il avait déjà une équipe incroyable. Mais
Pep n'a jamais gagné deux fois la C1 consécutive.
D'affilée, ouais, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que même à Barcelone, il arrivait à transformer cette équipe avec Messi, Neymar et Suarez en gagnant la Liga et la Champions League.
C'était un peu plus direct, ouais.
Derrière, il est en train de faire un travail phénoménal avec le Paris Saint-Germain. Non, mais ça lui donne une crédibilité.
Non, si
c'est te diront ouais à chaque fois il est dans des grands clubs, et ben la réalité c'est qu'aujourd'hui ce que Luis Enrique est en train de faire au Paris Saint-Germain c'est exceptionnel, et ça lui donne donc une crédibilité incroyable. Et tu m'étonnes qu'il arrive en conférence de presse avec le sourire.
Ouais.
Ben c'est comme
mais c'est pour ça que moi j'aimerais que parfois en fait il nous en donne un peu plus dans la pédagogie. Ouais,
mais finalement
justement.
il te la donne par rapport aux tactiques qu'il fait pendant les matchs, aux changements pendant les intersaisons, parce que là on reviendra peut-être un peu plus tard par rapport au mercato du Paris Saint-Germain, c'est encore un petit peu différent de ce qu'on avait vu sur les dernières années. Voilà, c'est la touche Luis Enrique. Alors pas que, parce qu'il y a une synergie entre le président du Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique, mais il faut avouer que c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, on peut que tirer notre chapeau et dire bravo, bravo.
Vous le situez où dans la hiérarchie des entraîneurs du Paris Saint-Germain? Il y a eu de grands noms, hein, Luis Fernandez, Ancelotti.
Ah non, tout en haut.
Il est tout en haut.
Non, mais tout en haut. Ah bah
c'est,
oui.
C'est
ah bah
question,
oui. Non, mais il y a personne qui lui arrive à la cheville. Ça, c'est évident.
Je vois
tout,
pas.
Tout en haut.
Ouais, je pense qu'il regarde.
Ouais, non, moi, j'irai pas jusqu'à dire Pep Guardiola, parce que je trouve que Guardiola a beaucoup plus influencé en fait le football et ses effectifs.
Parce
encore,
qu'on lui a donné du temps, mais laisse 10 ans à Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Je pense que
après, je suis complètement d'accord, mais après je trouve que Pep Guardiola a un côté peut-être un peu plus gourou, c'est-à-dire
professeur.
Quand tu vois au Bayern, il a non seulement transformé le Bayern, il a limite transformé la Mannschaft aussi en fait, parce qu'après les changements qu'il avait apportés ont été appliqués. Alors à tort ou à raison, mais dans la National Mannschaft, City quand même, il y avait le City de Pellegrini et le City de Guardiola. Enfin, il a regarde la continuité qu'il a eue en Première Ligue. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et c'est des saisons parfois à plus de 100 points Première Ligue.
Ce qui est très beau chez Guardiola, c'est aussi son altruisme. Quand tu regardes aujourd'hui toute la génération d'entraîneurs qui réussissent, Compagnie, Xabi Alonso, Maresca, Arteta, c'est du Guardiola. Donc c'est vrai que quand tu parlais de pédagogie de Luis Enrique, peut-être qu'il aurait tout à gagner justement lui aussi à transmettre de manière peut-être officieuse, non pas officielle, un petit peu sa manière de jouer, mais la réalité c'est que c'est fantastique, même si c'est vrai que j'avais tendance à ses débuts au Paris Saint-Germain à le critiquer parce que j'avais le sentiment qu'il essayait toujours de trouver quelque chose de nouveau et parfois il avait tendance un petit peu à trop en faire. Voilà, tu sais, moi j'ai eu Domenech Torrent, qui était l'assistant de Guardiola à l'époque, à Barcelone, au Bayern Munich et à City. Il est arrivé chez nous à New York City. Et je peux te dire que pendant deux ans, il fallait avoir un bac plus 6 pour comprendre cette tactique. C'était parfois trop. Donc c'est vrai que Luis Enrique, parfois, il a un petit peu cette tendance à compliquer le ballon. Mais aujourd'hui, tout lui réussit. Donc il a raison, au final.
Vous êtes nombreux, supporters parisiens et lensois, à nous appeler au 32-16. On va accueillir Luc, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Luc.
Salut, très content d'être là. Je vous entends parler de Luis Enrique et je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que c'est un coach qui est inspirant et qui est fascinant. Et je vous écoute, je bois vos paroles depuis tout à l'heure.
Et surtout David, Luc, on te reprendra dans un instant, mais on va retourner à Birmingham, encore une fois, priorité au direct avec les championnats d'Europe d'athlétisme et la première réaction du médaillé de bronze sur 10 000 mètres, Jimmy Gressier, qui est à tes côtés, Léna.
Oui, avec Jimmy Gressier. Jimmy, cette médaille de bronze, cette médaille européenne, surtout la première, il a fallait aller la chercher aujourd'hui.
Oui, c'est sûr qu'il fallait aller la chercher. Le niveau européen aujourd'hui est tout simplement monstrueux. Pour moi, c'est le niveau mondial. Les gens pensent que c'est les championnats d'Europe, donc c'est moins fort que les championnats du monde, alors que là aujourd'hui ce n'est pas le cas. Sur 10 000 mètres et 5 000 mètres, les Européens sont les meilleurs au monde. On peut se rappeler du podium l'année dernière. Sur 5 000 mètres, c'est deux Européens, c'est Kim Ili et moi. Sur 10 000 mètres, c'est Andreas Samgren et moi. Sur marathon, c'est Amenal Petros et Awani. Donc je relativise forcément parce que aussi en venant sur ce championnat, je voulais gagner les deux médailles d'or. Forcément, je suis compétiteur. Je viens pas pour faire deuxième, troisième. Mais aujourd'hui, je relativise. Ça a été très dur à aller chercher cette médaille et je suis quand même content de ramener cette médaille à mon grand-père dans l'armoire des médailles. Ça fait une en plus.
Parce qu'on sait que l'objectif c'était d'être double champion d'Europe. Est-ce que quand même il y a énormément de satisfaction? Tu parles de ton grand-père, de tout ça, mais je vois que tu hoches la tête. Il n'y a pas de satisfaction.
Il n'y a pas de satisfaction. Je ne suis pas fier de moi sur ce championnat. Par contre, comme je dis, je relativise. Il y en a beaucoup qui s'entraînent aussi dur que moi, qui mettent tout en place pour aller chercher ces médailles. Ils n'arrivent pas à aller les chercher. Et franchement, il faut garder les pieds sur terre. Ça reste des médailles européennes. Je vis une vie de malade grâce à mon métier qui est la course à pied. J'ai changé ma vie par rapport à là où je suis né. J'ai changé mon quotidien. Je travaille avec des personnes des personnes incroyables. Et en fait, ces moments-là, ça doit nourrir mon envie de toujours aller plus haut, plus loin. Et faut relativiser. Et je sais que demain, je vais repartir au boulot et je vais vouloir être encore une fois de plus une meilleure version de moi-même. Mais avec tout ce qui se passe aussi dans le monde aujourd'hui, je relativise vraiment parce que c'est un sport tellement incroyable, tellement aussi ingrat que faut prendre ce qu'il y a à prendre jour par jour.
Si tu relativises, c'est-à-dire que ce soir quand même, faut aller profiter, faut aller célébrer cette médaille.
Oui, forcément, faut déjà aussi aller remercier tous ceux qui m'accompagnent et puis il faut essayer de positiver. Il y a les championnats du monde aussi sur route qui vont arriver. Je sais que je suis plus à l'aise sur la route aussi et en fait faut repartir au boulot, travailler. Avant d'être champion du monde, j'ai échoué un mois avant au championnat de France, j'ai été battu par Yann. Un mois après, je me suis remobilisé pendant 4 semaines à Fourmeux en stage. J'ai fait attention à tout et j'ai été champion du monde. Donc je sais qu'il y a des jours où je peux être champion du monde, il y a des jours où je peux être 4e sur 5 000 mètres au championnat d'Europe, 3e sur 10 000 mètres. Il y a des jours où je serai 15e au championnat du monde de cross, mais qu'après je décrocherai le record d'Europe du 5 km route. Voilà, tout ce que je vous ai énuméré, c'est tout ce qui s'est passé en si peu de temps. Et voilà, il y a eu des hauts et des bas, des fois où aussi j'ai été critiqué quand je faisais 15e au championnat du monde de cross. Sauf que 3 mois après, je faisais Terle Haters en allant chercher un record d'Europe sur la route, quelques mois après aussi des médailles. Donc en fait, Je sais très bien que ce sport est tellement ingrat et qu'un joueur, un joueur, je peux être sur le toit du monde et un joueur, je peux être au pied du toit. Et voilà, faut continuer à travailler. Il y aura des plus beaux jours et des jours encore moins beaux. Donc, faut continuer.
Merci beaucoup, Jimmy. Et puis, trouver une belle place chez le grand-père pour cette médaille quand même.
Ça, ce sera à lui de la trouver, celle-là.
Merci, Jimmy. Merci.
Merci beaucoup à Jimmy Gressier, donc médaillé de bronze sur 10 000 mètres au micro de Léna Marjac.
Super, quelle preuve d'humilité hein, de la part de Jimmy.
Immense champion, l'athlète de Boulogne sur mer, grand supporter du Racing Club de Lens, donc qui affronte demain le Paris Saint-Germain lors du trophée des champions. Nous sommes de retour dans l'after, bien sûr, avec Maxime Chenot et David Guzman pour parler foot avec un trophée des champions qui s'internationalise, avec une rencontre qui sera en effet retransmise. Mise en direct par 48 diffuseurs demain avec une couverture étendue à 173 pays. C'est pas un match en bois, c'est pas un match bananier, ça, c'est un match qui
non, mais surtout qu'en fait, c'est joué en France, c'est déjà mieux que quand on le jouait en fait au bout du monde où on épuisait les joueurs sans forcément vendre en fait la Ligue 1 à l'étranger, parce qu'on voit que le décollage des droits internationaux en fait ça se fait encore attendre. Donc oui, non, c'est une bonne nouvelle, surtout que les autres championnats n'ont pas repris, donc peut-être que ça va être un peu plus.
Allez, on écoute une dernière fois Luis Enrique qui nous parle de l'arrivée, hein, c'est officiel, de Ferran Torres.
Je suis content, bien sûr. Je pense qu'on est en train d'améliorer notre équipe et chercher tout le temps d'être ouvert à chaque possibilité qu'on a. Ferran, c'est un joueur de niveau international, un joueur que nous connaissons très bien et je pense qu'il s'adapte parfaitement à ce que nous cherchons et voulons d'un joueur qui peut jouer partout dans l'attaque et avec sa mentalité. Je pense qu'on continue à travailler avec le président et Luis Campos sur le mercato et être ouvert tout le temps à améliorer l'équipe. C'est ça notre ambition.
Je vais vous entendre dans un instant, Max et David. Mais Luc, je t'ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure avec l'interview de Jimmy Gressier. Ton avis sur l'arrivée de Ferran Torres, le champion du monde espagnol, tu es content ?
Content, c'est pas le mot.
Tu préfères Gonzalo Ramos ?
Qui a marqué, non ?
Alors, en tant que supporter parisien, j'avais énormément d'affection pour Gonzalo Ramos. J'espère qu'il réussira. Je pense qu'il réussira au Milan AC. Pour moi, c'est un très bon attaquant. Maintenant, Ferran Torres, c'est un attaquant qui, pour moi, c'est pas forcément le genre d'attaquant qu'on attend lorsqu'on estime que son équipe est la meilleure du monde. En gros, c'est pour ça que je fais pas preuve d'un très gros enthousiasme. Par contre, on l'a tous vu jouer. On sait que c'est un attaquant qui a des qualités. Il a quand même été assez bon au FC Barcelone. Il fait partie de l'équipe d'Espagne qui est championne du monde et il est buteur même en finale de Coupe du Monde. Et on sait surtout que c'est un joueur qui est Luis Enrique compatible. On sait
alors, que c'est un joueur qui est. Si t'avais pas préféré Torres alors
Qui j'aurais pris. Enfin, est-ce que j'ai dit non
Par Alvarez.
Moi personnellement, j'étais pas trop hypé moi par Alvarez. Je préfère Ferran Torres à Alvarez, par exemple.
J'aurais préféré Alvarez peut-être, hein, mais il était beaucoup plus difficile.
Ferran Torres, 50 millions, c'est énorme quand même.
En tant que profil, en tant que qualité,
non, mais surtout qu'on recrute pas un titulaire. Le titulaire au poste de 9, c'est Ousmane Dembélé.
Exactement.
Et là, par rapport à Gonzalo Ramos, t'as un joueur qui est beaucoup plus Luis Enrique compatible, qui marque quand même un but, je crois que c'est tous les 148 minutes en Liga, qui est habitué à maximiser son temps de jeu, qui est habitué à pas forcément démarrer tous les matchs, parce que ce soit à City ou à Barcelone, il a aussi mangé les minutes qui n'étaient pas les minutes prime dans les plus gros matchs, mais il a répondu présent. Moi, franchement, encore une fois, comme Akliouche était une amélioration par rapport à Kangin Lee, je trouve que Ferran Torres est une nette amélioration par rapport à Gonzalo Ramos.
Après, c'est toute la spécificité justement de ces transferts rentrants, notamment Akliouche et aussi Ferran Torres, c'est des joueurs qui vont accepter d'être numéro 12 en fait, tu vois, parce que t'as bien compris que devant c'est déjà l'embouteillage, personne va décaler Gvara, Dembélé et Désiré Doué, ça y est, c'est emballé, c'est pesé, ces mecs-là vont commencer les gros matchs et alors évidemment il y a la culture aussi de l'instant, hein, de la la performance. Si les mecs sont mauvais, évidemment, il y aura sûrement un turnover. Mais t'as bien compris que le 11 titulaire avec les trois devant, c'est les trois noms que j'ai cités. Donc, il faut que t'arrives.
Après, on l'a vu avec l'Espagne, c'est un impact player.
Il fallait justement trouver un joueur. Il fallait justement trouver un joueur qui est en mesure d'accepter ce rôle de je vais pas forcément être titulaire tous les matchs. Et Ferran Torres, c'est le joueur.
Mais surtout, attends, il va aller titiller. C'est pas Solskjaer.
Non, non,
c'est pas un super seul.
C'est pour ça qu'il va leur les mollets.
C'est un gars qui a quand même sorti au FC Barcelone. Écoutez, moi, je me sens pas valorisé. J'ai envie d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Je pense qu'il a été déçu suite au départ de Lewandowski, qu'on ne le valorise pas contractuellement comme un avancement potentiellement titulaire. Donc, même à Kliouche, en fait, il a beau avoir l'air d'être timide ou quoi que ce soit. Je pense que c'est
quelqu'un. C'est les compétiteurs, David. Donc,
non, mais des vrais compétiteurs.
Leur place de titulaire, mais t'as une réalité qui.
Oui!
Qui est effective actuellement, c'est que les trois de devant titulaires sont Dembélé, Désiré Doué, Varane.
Ça
peut changer par rapport au fil de la saison, mais enfin je pense que par rapport à ça on est d'accord. La seule question et l'interrogation que j'ai par rapport à Ferran Torres, c'est quelqu'un qui a quand même bien réussi à Valence et à Barcelone, un championnat qu'il connaît bien, mais dès qu'il est parti en première ligue, qui est un championnat bien évidemment différent de la Ligue 1, mais t'as senti un petit peu un plafond de verre. Est-ce que finalement il a pas ce plafond de verre, ses limites sur les très très grands clubs? Alors Barcelone est un grand club, mais un grand club qui maîtrise, puisque je le répète encore une fois, c'est quand même un football qu'il connaît très bien. Là, il va se ressortir de sa zone de confort, ouais, arriver dans un club, alors certes, qui est géré par Luis Enrique, mais t'es d'accord avec moi, c'est différent. Ça veut dire que tu ne vis plus dans ta ville, tu ne parles plus la même langue, c'est une culture différente. Attention, ça va prendre en considération. Donc, là, c'est juste le petit questionnement que j'ai. Quand Ferran Torres est parti à l'étranger, ça n'a pas
forcément... Tu t'es un peu creusé la tête pour essayer de trouver
non,
des...
Mais c'est vrai,
mais
il a fait son transfert à City, ça n'a pas vraiment fonctionné.
Oui, ça n'a pas fonctionné parce que c'est la première négocier, que c'est très...
Du Paris Saint-Germain, quand tu pars et que tu sais, moi j'ai joué dans différents pays, on a le sentiment que ça reste du football. Quand tu changes d'un championnat à un autre, c'est des footballs différents.
Ouais, mais là, tu pars
c'est
en une mentalité, tu pars en
c'est une mentalité différente, c'est des coéquipiers différents, non, c'est une langue différente. Mais... J'imagine qu'il a l'intelligence, le QI football et les qualités pour s'imposer, en tout cas pour réussir au Paris Saint-Germain. Mais j'ai toujours cette interrogation sur un joueur qui a finalement que brillé. En Espagne.
On remercie Luc qui a composé le 32-16.
Merci à vous.
Et on continue dans un instant dans l'after sur RMC de parler de ce trophée des champions après le PSG. On va parler du Racing Club de Lens. Ne bougez pas, l'after revient dans un instant.
RMC, l'after foot.
Christophe Plenet.
Avec David Guzman, avec Maxime Chano, on continue de parler du trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. C'est officiel, ça vient de tomber. Et comme attendu depuis plusieurs jours, le jeune ailier international belge, Mika Goetz, 21 ans, s'est engagé pour 5 saisons avec le PSG en provenance de l'Ajax Amsterdam. On parle d'un transfert estimé à 55 millions d'euros. On reparlera de ce transfert et de Zion Suzuki, le japonais qui ne viendra pas dans la page Mercato en fin d'after. Mais on parle de Lens à présent. Un nouvel entraîneur, Dino Topmöller, pour remplacer Pierre Sage. Une préparation réussie avec des succès, notamment contre Palace ou encore Villarreal. Pas mal de départs, des arrivées. Le Racing Club de Lens entame un nouveau cycle à l'aube de cette saison 2026-2027, mais toujours avec Florian Thauvin, intronisé capitaine et toujours avec des ambitions. Question, David, Max, Lens a-t-il les moyens d'embêter Paris demain? On en a déjà un petit peu parlé
Moi, complètement, Max,
tout à l'heure, mais ce sera un beau match.
Non, mais Max n'était pas d'accord. Après, moi, franchement, j'ai pas vu le PSG si souverain contre une équipe d'Aston Villa où il manquait des cadres, il manquait Oli Watkins, il manquait Ezri Konsa, il manquait Edibou Martinez. Oui, ils ont perdu des joueurs. Donc moi, je les ai trouvés relativement aisément mis en danger avec un énorme match de Brian Maggio. D'ailleurs, malheureusement, il s'est blessé pendant de nombreuses semaines. Et Lens, qui a chuté contre Sunderland, qui est une équipe qui s'est qualifiée pour son retour en Première Ligue pour une compétition européenne et qui est une équipe qui vient d'ailleurs de battre de Rennes cet après-midi, mais qui a gagné le tournoi de Côme, en battant Villarreal. Non, mais c'est
oui,
non,
mais bon, c'est une... attends, tournoi mais... avec la buvette là qui t'a
c'était bien la Coupe
on attend Lens à la table de match
tout simplement ils finissent premier avec deux équipes qui se qualifient avec des champions
mais les tournois c'est pas
mais après je suis obligé de me baser en fait sur les dernières rencontres.
Allez, on va accueillir Alicia, supportrice lensoise, qui a composé le 32-16. Salut Alicia.
Bonsoir Christophe, David et Maxime.
Salut Alicia. Alors justement, David parlait de ce match face à Sunderland. C'est un match qui ne t'a pas rassuré, toi, Alicia.
Non, du tout. Moi, c'est la défense qui me fait peur. Donc, super qu'on va garder Manu, mais on n'a que les petits de la gaillette, en fait. On n'a pas de vrai titulaire, de patron en arrière. Donc, si tu te prends les assauts des attaquants parisiens, je suis pas rassurée. Après, j'ai été rassurée par un milieu. Ouais, on n'a pas Baïdou, Grady. On ne sait pas s'il va revenir.
Ouais, en tout cas, il ne sera pas prêt, je pense, pour le match. Hein. Il a dit Top Moller, Grady ne serait pas titulaire. Mmh. En tout cas, pas prêt. Mais c'est vrai que je te laisse continuer. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a eu trop de départs du côté du Racing Club de Lens. Je ne sais même pas si on peut parler d'une équipe en transition. Mais surtout, ils ont perdu leur entraîneur, Pierre Sage. La question moi, que je me pose, et j'aurai une indication demain contre le Paris Saint-Germain, c'est Pierre Sage a joué avec trois défenseurs. Top Moller avait l'habitude de jouer avec quatre du côté de Francfort.
Il jouait pas mal à trois aussi.
Sur les dernières années, la dernière saison, il jouait avec quatre défenseurs, 4-2-2-2. C'est vrai que là, comment il va se positionner, sachant que tu sais qu'Udol a fait une superbe saison l'année dernière, mais en tant que piston gauche. Là, ça voudrait dire qu'il reviendrait arrière gauche. Ça, c'est juste la question que je me pose. Mais là où je te rejoins, Alicia, c'est vraiment qu'il y a eu trop de départs. Malang Sarr, qui était vraiment précieux pour ce Racing Club de Lens. Et puis surtout Sangaré. Sangaré, ça a été exceptionnel. Avec Thomasson, c'était la plaque tournante du Racing Club de Lens. Donc là tu arrives avec beaucoup de questions. David Gluzman est sûr que Lens va manger le Paris Saint-Germain.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça allait être, un concurrent sérieux. Et même moi, j'ai même fait un avis en fait où je pense que Lens figurera très bien l'année prochaine. Après, certes, il y a eu des départs, mais Sangaré, il a été remplacé par Titraoui. Vraiment, quand tu regardes leur profil technique, c'est vraiment des joueurs hyper différents. Thomasson, Bulatovic, il a pris de plus en plus d'ampleur en fin de saison. Je rejoins Alicia, c'est pertinent ce qu'elle dit. C'est vrai qu'il y a eu énormément de départs derrière. Là, il y a une offre pour Aubert de Cagliari qui a été refusée. Mais
il n'y aura pas un match demain. Écoute ce que je te dis, il y aura pas match.
Non, mais
Paris va rouler sur Lens. Moi, j'en suis convaincu. Et j'aime beaucoup le Racing Club de Lens, mais là, ils repartent de zéro. Ils repartent de zéro. Et d'ailleurs, ça m'inquiète.
De zéro complètement.
En tout cas, de zéro façon de parler. C'est un premier match de la saison. Et en tout cas, ils repartent de trop loin. Et ça m'inquiète pour le Racing Club de Lens cette saison parce qu'ils ont très bien fonctionné l'année dernière parce qu'ils avaient qu'un match par semaine. Là, t'as perdu quand même des joueurs importants. Bon, tu récupères Cuisance, qui est un très bon petit joueur d'ailleurs, qui s'était perdu, qui est bien revenu la dernière au Hertha Berlin. Thorgan Hazard.
Ouais, mais c'est trop. Pas dingue,
il s'était perdu même. Ça a été un peu mieux à Venise. Et puis après, quand il est reparti en Allemagne, ça a bien fonctionné. C'est un super joueur quand il était jeune, du côté de Nancy d'ailleurs. Enfin, tout ça pour te dire que je pense que Lens la part de trop loin pour être prêt pour aller taper le Paris Saint-Germain.
Toi, t'en penses quoi, Alicia ?
Ouais, on te laisse poursuivre, car j'ai deux garçons très bavards, hein, tu l'auras remarqué.
En plus, elle est très pertinente, je vois qu'elle passe, Alicia.
Maxime n'est pas très gentil avec Lens.
J'aime beaucoup Lens, j'aime beaucoup Jean-Louis Lec.
Moi, ce qui me fait plaisir, c'est Bulatovic. Alors, pour l'avoir vu contre Sunderland, mais c'est un chien sur chaque ballon, il s'en foutait, il pouvait le blesser, il allait quand même sur le ballon, il était vraiment partout, donc lui, il était prometteur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Cuisance et Thauvin, ils communiquaient énormément ensemble. Du coup, je me dis, oui, Thauvin est patron. S'il peut mettre Cuisance dans son jeu et qu'ils peuvent jouer ensemble, ça nous ferait déjà un bon milieu.
Mmh, ouais.
Parce que Sangaré, il va falloir le remplacer.
Hein. Ah
ouais, c'est
sûr.
Tu parles de Thauvin, Alicia, on va l'écouter. Hein. Il a obtenu le brassard de capitaine. On l'écoute donc sur la confiance que lui accorde désormais donc Dino Topmöller.
Ce sera le cas pour cette année. Je vais prendre la succession d'Adrien Thomasson, qui a remarquablement porté le brassard de capitaine l'année dernière. Donc je suis fier et honoré d'être le garant de cette équipe, d'être le capitaine. Je sais ce que ça représente, je sais la responsabilité que j'ai sur mes épaules. Mais pour être très honnête, même si j'en suis très fier, c'est pas une pression supplémentaire. C'est une suite logique pour moi. J'ai pas attendu d'avoir le brassard l'année dernière pour essayer d'être un exemple et tirer le maximum de l'équipe et tirer tout le monde vers le haut. J'en suis très très heureux, mais aucun changement dans mon attitude, si ce n'est de la continuité.
Les garçons et Alicia, lui, Florian Thauvin, est capable d'emmener tout le monde derrière lui et avec lui.
Si je peux me permettre, parce que j'en ai parlé hier et on m'a regardé avec des gros yeux, moi j'aime beaucoup aussi la manière dont a évolué Flo Thauvin. Depuis qu'il est arrivé au Racing Club de Lens, il a pris de l'épaisseur, il a fait une très belle saison. Est-ce que je l'attendais à ce niveau-là ? Je vais être très honnête avec vous, je ne pense pas. Même si en Italie, ça avait bien fonctionné la dernière saison à l'Udinese. Je sais pas, moi, il y avait un truc qui me plaisait pas, c'est chez Thauvin, c'était dans son attitude. Je peux pas vraiment t'expliquer. Il y a eu notamment là cette sortie qu'il avait fait contre Gignac lors de son départ là au Tigresse, où il avait dit publiquement que Gignac l'avait pas aidé, qu'il lui en voulait. Enfin, je trouvais que dans sa communication, il était moyen.
Non, mais c'est vrai que
depuis qu'il est arrivé. au Racing Club de Lens, on le sent épanoui. Alors peut-être aussi parce que sportivement ça fonctionne très bien, peut-être qu'il a aussi besoin d'un club finalement à une échelle familiale comme est le Racing Club de Lens. Je pense qu'on sent vraiment un Thauvin qui est épanoui et ça se voit sur le terrain.
Ça marchait bien à l'OM qui est pas vraiment un club familial.
Non mais il était plus jeune, c'est pareil, il était
mais ça marchait bien, il faisait des saisons double-double où à un moment il y avait vraiment, enfin il était question d'un gros
en tout cas,
transfert.
D'un point de vue communication, je le trouvais beaucoup plus arrogant avant, beaucoup moins mobile et
Moi c'est dans le leadership qui m'impressionne vraiment parce que c'est vrai que ça a toujours été un super lieutenant et à l'Udinese et à Lens, il a pris énormément d'épaisseur, dans le leadership. Moi je trouve que c'est un joli clin d'œil de l'avoir nommé capitaine. Après c'était lui ou Udol peut-être. Je pense que c'était les deux les deux
ouais,
les deux.
Il a dit à Top Moller hein, je pense qu'il a fait un conseil Thauvin, Udol, Gradit, Beidou pour la jeunesse et il me manque le cinquième. Mais en effet Udol est dedans.
Alicia, c'est le taulier, c'est le patron, c'est le joueur frisson à Bollaert, Florian Thauvin.
Et Sotoka, pardon.
Oui, c'était Sotoka. Et pour moi, c'était naturel qu'il soit capitaine après Thomasson. On le voyait sur le terrain. Quand tu le vois sur le terrain, on le voit pas souvent à la télé. Enfin, quand on voit les matchs à la télé, c'est différent. Mais sinon, il parle toujours. Même quand il n'était pas capitaine, il remettait tout le monde en place. Et là, bah, il a le brassard, donc maintenant, il continue. Et je trouve que même sur Instagram, tous les petits jeunes de la Gaillette, ils mettent des commentaires pour les booster ou autre. Il a vraiment le rôle de grand frère. Après, il est peut-être seulement arrivé maintenant à l'âge de maturité et il est arrivé au bon moment à Lens.
97 buts en Ligue 1 pour Florian Thauvin. On va l'écouter sur son objectif de 200 buts, un objectif a priori réalisable dès cette saison. Écoutez.
Je trouve ça quand même extraordinaire parce que mon rêve petit, c'était d'être un jour footballeur professionnel. Pourquoi pas évoluer en Ligue 1? J'ai eu la chance d'évoluer en Ligue 1. J'ai eu la chance de devenir champion du monde. J'ai eu la chance de jouer toutes les compétitions européennes. Ça me procure beaucoup d'émotions. Le fait de penser que je me rapproche des 100 buts en Ligue 1, c'est une énorme fierté. C'est un honneur. Quelque part, je laisse une trace aussi dans notre championnat parce que je crois qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui sont arrivés aux 100 buts en Ligue 1. Il faudrait que je regarde, mais je compte pas m'arrêter là. J'ai hâte d'arriver à la barre des 100 buts. C'est un objectif pour moi. C'est bien. Je suis très heureux et très fier et en espérant que ça arrive le plus vite possible.
Champion en Ligue 1, c'est monstrueux.
Bah, surtout, bon, on n'y est pas encore, mais 97
on
a priori.
Il est quand même assez longtemps à l'étranger parce que c'est vrai qu'il est, enfin, pas assez longtemps. Il était au Tigresse, il était à l'Udinese. Donc, non, c'est vraiment.
C'est un but de plus que Djibril Cissé, hein. 96.
Ouais, ouais, Djibril, c'est pas mal. Assez tôt.
Ouais, non, mais on se rappelle.
Il a marqué un peu plus rapidement, il est parti assez tôt.
On se rappelle que Djibril voulait absolument atteindre la barre des 100. Je pense que Thauvin le fera avant Djibril. Bah, c'est une certitude depuis qu'il a arrêté sa carrière.
C'est le joueur en activité, en tous les cas, dans le championnat de France, qui a marqué le plus de buts devant Ludo Ayork, hein, qui est à 67. Florian Thauvin, Alicia, est-ce qu'il peut atteindre cet objectif dès ce mois d'août, sur les premières journées?
Il peut mettre trois pions face au PSG, moi ça me
va. Tu peux les mettre. Ouais, mais crois, toi, Alicia, contre le PSG, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que tu peux les mettre en danger? Ou t'es plus Team Max, ou t'es vraiment assez défaitiste?
Malheureusement, là, avec notre effectif actuel, je suis pas forcément optimiste. J'attends encore des surprises de l'ECA.
Encore plus si Hudson-Edouard ne joue pas. Hein.
Mais moi, j'aime bien Ryan Fofana. Moi, je trouve que. Ouais, alors, enfin, non, c'est pas le même niveau. Il est en train de prendre de l'ampleur, d'étoffer sa panoplie. Il est en train de prendre de l'assurance. Alors, oui, bien évidemment. Enfin, t'as pas un joueur capable de remplacer Hudson-Edouard. Même si moi, j'aime bien Franjo Ivanovic. Ouais, je trouve que c'est une recrue hyper intéressante. Et c'est bien, en fait, que Lens se positionne sur ce type de recrue. Ou des recrues court terme qui vont t'apporter une plus-value rapide. Même si t'as pas d'option d'achat, c'est pas très grave. Mais moi, j'ai confiance en fait en Ryan Fofana.
Très bien.
J'aimerais bien voir, c'est Skouras. Je ne l'ai pas vu malheureusement, il n'a pas joué contre Sunderland, mais il a l'air prometteur aussi, le Polonais. Ouais.
Ok, bon, merci beaucoup Alicia.
Merci beaucoup Alicia.
Le 32-16 et d'avoir passé une tête dans l'after. Tu reviens quand tu veux, merci beaucoup. Allez, une petite respiration. Et à l'after, revient sur RMC. On va revenir sur la deuxième journée du championnat de France de Ligue 2 avec un invité qui nous vient du nord de Dunkerque. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
Avec David Glusman, avec Maxime Chiano, il est à 22h45. On va parler à présent de la Ligue 2 dans l'after. Deux matchs, deux victoires pour Saint-Etienne, en tête déjà au classement. Les Verts ont tranquillement battu Clermont 3-1 hier à Geoffroy Guichard. À l'inverse, deux matchs et deux défaites pour Nantes, battu à Laval. Et puis à la troisième place du classement, avec 4 points, on retrouve une belle équipe de Dunkerque. Les Nordistes sont allés chercher un bon match nul 3 partout hier à Delaune contre le Stade de Reims. Il n'y a bien sûr que des numéros 10 dans ma team. J'accueille donc avec plaisir Adrien Lebeau, le numéro 10 de Dunkerque. Salut Adrien, bienvenue dans l'After. Adrien ?
Oui.
Salut Adrien.
Salut Adrien.
Bienvenue dans l'After. Félicitations pour ton but hier et pour le bon point pris à Reims.
Bonsoir, merci pour l'invitation, c'est gentil. Et merci pour l'accueil.
Alors raconte-nous ce début de saison et ce match nul hier, complètement fou, 3-3 à Delaune.
C'est un bon début de saison. Je pense qu'on a fait un bon résultat dès la première journée contre Grenoble à domicile. Et je pense que c'est un très bon point de prix sur la pelouse de Reims. Donc on est plutôt content.
L'effectif a été pas mal remanié à l'intersaison, entre les départs notamment de cadres comme Vincent Sassoua, Renzo Bardelli à Levante ou encore Anto Sekongo à Samsung Sport. Quels sont les objectifs de Dunkerque pour cette nouvelle saison, Adrien ?
Ouais, c'est sûr que l'effectif il a été bouleversé. Maintenant, les objectifs ils restent les mêmes que les années précédentes. Voilà, ils ont très bien travaillé dans la cellule de recrutement. Tout le club a très bien travaillé pour combler ces départs là. Donc tout se passe très bien pour l'instant.
Salut Adrien, félicitations pour ta signature et ton retour dans le championnat de France.
Et son but,
très en plus de son but. Ouais. Je voulais te poser une question par rapport à toi, là, qui a dû donc justement t'expatrier un petit peu à l'étranger. On a parlé cette semaine, certains nous disaient que la Ligue 2 était peut-être la plus belle Ligue 2 d'Europe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce niveau sur les deux premiers matchs? Voilà, t'as en plus de ça joué contre une très belle équipe du Stade de Reims. Alors, comment tu ressens, toi, le niveau de cette Ligue 2 actuellement?
Bonsoir, merci beaucoup. Non, mais c'est sûr que voilà, tout le monde le sait, je pense, cette année la Ligue 2 est très très relevée avec des clubs très connus et des clubs un peu moins connus mais qui travaillent aussi vraiment très bien. Donc je pense que ça va être un très bon championnat. Cette saison, ça va être une Ligue 2 très difficile avec beaucoup de très bonnes équipes comme je l'ai dit. Mais c'est sûr que je pense que on va faire partie des meilleures deuxièmes divisions d'Europe. Et on n'a pas à se le cacher là-dessus.
Comment tu as trouvé l'intensité justement sur tes deux premiers matchs par rapport à l'Allemagne? On sait que l'Allemagne c'est quand même un jeu aussi assez direct.
Je pense que en termes d'intensité c'est à peu près le même niveau, je dirais, parce que c'est sûr qu'en Allemagne c'est un jeu un peu plus ouvert, c'est un peu plus box to box, mais en France il y a quand même cette intensité là. Ben, d'ailleurs quand on a joué à Reims, c'est une équipe qui joue énormément en transition, donc ça demande aussi beaucoup d'efforts et beaucoup d'intensité dans le match. Et je pense que ça se ressemble un peu. La seule différence, c'est que je pense que la France est beaucoup plus tactique que l'Allemagne. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de buts en France qu'en Allemagne, même si nos deux premiers matchs, il y a eu énormément de buts. Mais c'est un peu ça, la seule différence, je dirais. Sinon, ça se ressemble un peu en termes d'intensité.
Adrien Lebeau, le numéro 10 de Dunkerque, qui est l'invité de l'After.
Ouais, c'est ce que j'allais dire en t'écoutant, Adrien. Tu dis qu'il y a un peu moins de buts. Vous, vous avez quand même marqué 7 buts en 2 matchs. Et quels sont les préceptes et les principes inculqués par votre entraîneur, qui, moi, déjà, m'avait beaucoup plu l'année dernière et mettait énormément en valeur les joueurs offensifs? Et comment il a fait que ces principes de jeu ont infusé aussi rapidement?
Je pense que c'est tout le coach, mais c'est tout le projet d'un club qui demande ça. Et en fait, les principes, ben voilà, tout le monde sait, le coach c'est un Espagnol qui vient de la Masia. Donc tout le monde sait le projet de jeu un peu de la Masia et à l'Espagnol, qui demande énormément de possession, un gros pressing. Qu'on n'a pas peur d'aller presser, même quand on joue à Reims ou quand on joue n'importe quelle équipe. Et c'est sûr que ces principes-là, ils sont très importants pour nous et notamment pour les joueurs offensifs.
Et comment en fait ça, comment on arrive à une harmonie aussi rapide dans le vestiaire avec un vestiaire aussi hétéroclite? Parce que c'est vrai que entre Eden Prusteff qui vient d'ailleurs, qui t'a fait une passe décisive invisible sans toucher le ballon, magnifique. Mais du Opa Sangoté, du Thomas Robinet, du Lenny Vallier, du vieux routard de la Ligue 2, du joueur étranger qui arrive, toi qui es français, de l'étranger qui revient. Comment on arrive à une osmose aussi rapide?
En fait, je pense déjà la chance, c'est que les joueurs ils sont arrivés très tôt cette année. Le club a recruté très rapidement et on a pu faire une préparation quasiment tous ensemble et ça a beaucoup aidé. Et puis le club recrute énormément aussi sur la personnalité, sur le caractère des joueurs, sur toutes ces choses-là. Je pense qu'ils sont très très importants dans un vestiaire. Et ce qui fait que quand tu arrives dans un club comme Dunkerque, eh ben tu te sens tout de suite à l'aise, tu te sens vraiment bien. Et comme je l'ai dit en interview il y a pas très longtemps dans la Voix du Nord, je me suis jamais aussi vite adapté dans un club et jamais aussi bien senti dans un vestiaire que comme à Dunkerque.
Justement, on parle quelle langue dans le vestiaire, Adrien? Le français, le ch'ti?
on parle le français. On parle pas encore le ch'ti. Peut-être que ça va venir un peu plus tard, mais pour l'instant, on parle le français.
Écoute, j'avais aussi une question par rapport à ton cas personnel. On le sait que tu as joué à Brest, tu as joué à Strasbourg, tu as dû justement t'expatrier du côté de l'Allemagne pour derrière revenir en France. Est-ce que justement tu ne regrettes pas qu'aucun club français t'ait fait confiance plus tôt? Tu sais que tu as beaucoup de joueurs qui prennent des chemins de traverse pour derrière réussir. Ça a l'air d'être ton cas et on te le souhaite en tout cas du côté du championnat de France. Voilà, comment tu vois la situation par rapport à ton départ en Allemagne et ton retour en France?
Ben déjà, quand je pars de Strasbourg, je résilie mon contrat, justement, c'est pour prendre du temps de jeu, parce que j'avais l'impression que c'était un peu bouché. Et je pense que j'ai fait un très bon choix, parce que ça m'a servi de découvrir autre chose, de grandir. Et ensuite, en revenant en France à Brest, j'arrive dans un club qui normalement, on va dire, joue la deuxième partie du tableau, le maintien, et puis au final, tu te retrouves à finir troisième dans un effectif qui est assez, on va dire, exceptionnel cette année-là. Et j'ai 2 ans d'option et au final, le coach roi veut me garder, mais il me garantissait pas de temps de jeu, chose que je pouvais comprendre, mais moi j'avais besoin de jouer, même s'il y avait la Ligue des Champions derrière. Je pense que le plus important pour un joueur c'est de jouer et c'est seulement comme ça qu'on est mis en avant d'ailleurs. Donc je décide de partir à Rostock, très loin d'ailleurs, dans le nord de l'Allemagne.
Ou Hansa. Joli port de pêche, Rostock, non?
Ouais, exactement. Et donc c'est très loin de la maison, un peu esselé, mais je pense que ça m'a permis de prendre encore plus confiance en moi, chose que peut-être que j'avais pas tout à fait à Brest. Et c'est aussi pour ça que je voulais revenir dans ce championnat en France, en Ligue 2, pour montrer mes qualités, montrer de quoi j'étais capable et qu'avec de la confiance et dans un projet qui me correspond totalement, c'est-à-dire dans un jeu de possession assez technique, un gros pressing, etc. Et je pense que c'est tout ce qui me correspond pour montrer mes qualités cette année.
Moi j'ai une question parce qu'il y a un joueur qui, moi j'avais fait le multi Ligue 2 la première journée, un joueur esthétiquement qui m'a tapé dans l'œil chez vous, c'est le petit Marco de Scherf. Il est si prometteur que ça parce qu'il a un swag et une dégaine et un talent, moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux.
Ouais, bien sûr, c'est un très bon jeune avec la tête sur les épaules, comme d'ailleurs tous nos jeunes, parce qu'on a un effectif très jeune et tous nos jeunes ils ont la tête sur les épaules, ils ont cette envie de travailler, cette envie de grandir. Et Marco en fait partie. Et d'ailleurs, il est décisif encore sur mon but ce week-end. Et il fait une passe décisive et il marque la première journée. Donc voilà, il faut qu'il continue dans cette lignée. Et on espère tous d'ailleurs qu'il va continuer comme ça parce qu'il va nous aider.
Ouais, un effectif très jeune, mais pas que, parce que c'est vrai qu'on a eu le retour surprise d'un champion du monde.
Parle-nous du papy un peu.
Zonzi, est-ce que tu peux nous en parler? Dans quel état de forme il est? Bon, il a joué derrière en Angleterre la saison dernière, pas mal de matchs. Voilà, qu'est-ce que ça fait de jouer à côté d'un champion du monde?
Ah, c'est sûr, quand on l'a vu arriver, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, parce que voilà, tout le monde sait qu'il est champion du monde, tout le monde connaît ses qualités, son expérience. Et je pense qu'il va nous apporter énormément, que ça soit sur le terrain, dans le vestiaire, que ça soit dans les moments clés des matchs, comme par exemple contre Grenoble, quand on prend un but à la 45 plus 2, il me semble. Peut-être que dans ces moments-là, il sera encore plus important. Et on va tirer au maximum sur son expérience pour apprendre et continuer à grandir.
Adrien Lebeau, le numéro 10 de Dunkerque, est avec nous dans l'Afterfoot sur RMC. Dembaba est parti, on le sait, il avait fait un super travail à Dunkerque, il a rallié le Havre. Apparemment, on continue de très bien travailler à Dunkerque. Dunkerque avait pris la 10e place l'an dernier, une saison réussie, Adrien. Ce serait quoi individuellement et collectivement?
Individuellement, déjà, ce serait de prendre du plaisir comme je le fais depuis le début de la saison. Je pense que c'est une chose très importante et puis jouer le maximum de matchs. Et puis collectivement, déjà faire mieux que la saison dernière et puis prendre les match après match et on verra bien où ça nous mène.
Ah non, match après match, c'est interdit dans l'after ça.
Moi je suis persuadé que, alors j'ai pas envie de vous porter l'œil ou quoi que ce soit, mais dans une Ligue 2 où, à mon sens, on s'est un peu trop attardé sur l'histoire des clubs et pas forcément sur la qualité et la cohérence des effectifs. Moi, je pense que vous, Annecy, vous avez clairement des profils pour aller titiller les clubs du haut de tableau et d'être les Rodez Red Star de l'année dernière. Alors, je sais que tu nous le diras peut-être pas parce que t'es superstitieux, mais moi, vous avez une bonne grosse tête de surprise.
Tu confirmes, Adrien, ou pas?
Ouais, bien sûr, ça peut être le cas. Maintenant, on sait qu'une saison est longue. C'est très difficile, surtout cette année avec de grosses écuries. Et comme j'ai dit, il y a pas que les gros clubs. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs moins connus, on va dire, sur le papier, mais qui travaillent vraiment très très bien. Et c'est pour ça que cette saison, ça va être très difficile. Là, on commence bien, c'est bien, mais il faut pas s'enflammer, il faut garder la tête sur les épaules et continuer dans cette lignée jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, rarement l'expression antichambre de la Ligue 1 n'aura été aussi bien illustrée avec cette saison 2026-2027 de Ligue 2 qui s'annonce comme une grosse bagarre entre gros CV sur les 18 clubs de Ligue 2. 14 ont déjà évolué à l'échelon supérieur en Ligue 1 ou en D1 à l'époque. Tu as marqué ton premier but hier. Est-ce que tu t'es fixé un objectif personnel en termes de stats, Adrien? Et ce sera ma dernière question, on va te libérer.
Honnêtement, non, pas pour le moment. J'espère en marquer le maximum et aider mon équipe. Mais franchement, honnêtement, en toute honnêteté, pour le moment, je ne me suis pas fixé d'objectif. Et on verra ça dans les semaines à venir. Peut-être que je vais m'en fixer, mais pour le moment, c'est pas le cas.
Très bien, on va te libérer, non sans t'avoir remercié, mais il est bientôt 23h.
Merci Adrien.
Il est temps d'aller dormir, sinon on va se faire gronder par Albert Sanchez, l'entraîneur donc de Dunkerque. Adrien Lebeau était avec nous dans l'after, le numéro 10 de Dunkerque. Merci beaucoup et belle saison du côté du Nord. Dunkerque qui affrontera Montpellier lors de la 3e journée. Il est bon sur le terrain, il est bon au micro, le garçon.
Très pertinent.
Les questions étaient très bonnes également.
Non, mais il est bon, j'ai passé un super moment, il est très précis, ouais. Il met en valeur ses coéquipiers.
Pas de faute de syntaxe, c'est rare chez un footballeur.
Il y a un pivot, écoutez-le là.
Il y a juste, on prend les matchs les uns après les autres, ou bon là, ça c'est interdit, une formule interdite dans l'after. Une petite respiration et l'after revient au programme de la 2e heure. Bordeaux, Marseille, les dernières infos Mercato. Ne bougez pas, l'after revient dans un instant sur RMC.
RMC, l'after foot.